Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hoop Culture. Je suis rejoint comme chaque dimanche par l'inoubliable, l'inimitable Pierre-Armand Samama. Comment ça va Pierre-Armand?
Inoubliable d'entrée, le mec on ne l'oublie
Direct.
jamais, parce que je m'impose partout, c'est pour ça qu'on n'oublie pas. Comment ça va Théo? Ça fait plaisir de te voir.
Eh bien, écoute, ça me fait très plaisir de te voir aussi. Ça va très bien. On peut enfin dormir la nuit, ne pas se lever à 4h du matin pour regarder des fins de match qui sont déjà éclatées depuis longtemps. Voilà, vous le savez, là, pour le coup, c'est pas du spoil. Donc, les Celtics qui se sont imposés au terme de cette saison NBA qui a été malgré tout passionnante, moi j'ai trouvé en tout cas. Et avec Pierre Armand, on s'est proposé pour cet épisode de Culture de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et de voir un petit peu ce qu'on retiendra de cette saison 2023-2024 sur le terrain, sur les à côté, les coulisses, bref, à quoi on repensera en premier quand on repensera cette année. Pierre, bah, déjà, première question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu trop l'occasion de parler des finales, on en a parlé un petit peu en off, mais pas particulièrement avec nos auditeurs. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as retenu de ces finales NBA au bout du compte?
Les plus éclatés de l'histoire.
Carrément,
Oui,
direct.
bah oui, on s'est fait chier comme des rats dans ces finales. Je pense qu'on a été alors gâtés par la conférence Ouest dans sa globalité, par des playoffs et des runs de playoffs qui étaient super, des séries qui, même si elles ont été abrégées, notamment entre les Mavs et les Wolves, mais il y avait de la tension, il y avait des enjeux, il y avait des money time et tout. Là, on s'est fait, enfin, oui, comme tu dis, en même temps, on s'est levé à 2h30. Tu avais presque envie de dire à 3h moins le quart, on pouvait aller se coucher, quoi. C'était, il y avait même des matchs, fin de premier quart-temps, c'était mort, c'était terminé. Ouais, non, c'est alors, moi, on va commencer tout seigneur, tout honneur. Un immense bravo aux Boston Celtics, la confirmation qu'une équipe intelligemment est construite et sur le temps, ça fonctionne. Tout est bien pensé, tout est bien coaché, tout a été bien vu, chaque rotation, chaque sortie, chaque temps de jeu, chaque match-up, tout a été parfaitement orchestré depuis le match 1 de la saison régulière. Donc bravo à eux, je ne suis pas le plus grand fan de Boston, mais il faut reconnaître quand une équipe est une belle équipe, comme on l'a fait l'année dernière avec les Denver Nuggets. Il y a juste deux trucs qui m'ont choqué. Je vais parler du premier, c'est une question que je vais te poser, Théo. Depuis quand le trophée Larry O'Brien est rond en dessous? J'ai cherché.
Oh la colle!
Ouais,
La colle de ouf!
depuis 2022. Voilà, ils ont changé.
D'accord.
C'est plus ce truc carré en dessous. Il est rond. Merde! Chier!
J'avais jamais remarqué ce
T'avais
détail
pas
qui a son
remarqué?
importance. Non, j'avais pas du tout fait
Eh
attention à
ben,
ça, effectivement.
je l'ai vu parce que quand on leur présente un truc rond et d'habitude ils ont cette espèce de plaque énorme où quand ils le soulèvent, tout le monde met la main dessus. Et là, personne ne l'a attrapé. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et le gars avait un peu plus de mal à le porter que d'habitude. Et en fait, tout en dessous, c'est rond. Il y a marqué NBA Champions et sous la plaque, tu as le logo des finales. Et j'avais jamais remarqué que le trophée était devenu rond. Ce qui ne le rend pas dégueulasse, hein, mais merde, d'où on change ça sans demander l'avis des gens, quoi.
Non, mais effectivement, j'avais pas du tout vu. Je pense que c'est le moment où ils ont dû introduire les nouveaux trophées.
Ouais,
C'est
depuis
ces nouveaux
2022, ouais,
trophées
c'est
de
ça.
voilà, nouveaux trophées de fin de saison. Hein.
Ah ouais, c'est ça. Depuis, j'ai regardé les photos du coup de chaque champion depuis 3 ans et je voyais Giannis avec son en train de galérer, en train d'essayer de soulever sa plaque, son vinyle énorme là. Donc voilà, le trophée est rond. Mais bravo, bravo aux Celtics, bravo à Jalen Brunson, bravo à Jason Tatum. Ça fait quand même. C'était leur joie.
Jalen Brunson aussi, on
J'ai
peut
dit quoi?
aussi, mais...
Ouais, non, tu sais pourquoi je disais ça? Parce que dans les trucs qui m'ont retenu cette année, c'est que les initiales JB avaient bien fonctionné. Bravo à Jalen Brown, en effet, c'est surprenant au vu parce qu'on reste toujours sur la dernière impression et que sur le dernier match, Jason Tatum est quand même assez impressionnant de par sa volonté, son envie et son impact. Mais c'est pas volé, loin de là. Vraiment, là, en effet, tu as été le premier à le désigner comme ça, toi Théo, sur l'ensemble de son œuvre et sa défense de fer sur Luka Doncic en finissant de l'éteindre, même si il est arrivé pas bien fringant. On parlera plus tard sûrement, mais voilà. Donc bravo à eux. Superbe champion depuis le début, 64 victoires. Enfin, ils ont roulé sur la ligue et il n'y a aucune contestation possible à mon sens. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, non, bah c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, ça sera forcément la première chose à laquelle on repensera quand on pensera à cette saison 2023-2024. C'est bah, ce 18e titre, si je me trompe pas, des Boston Celtics. 16 ans après le dernier, l'équipe bah, devenue mythique depuis de 2008 avec le Big Three, Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Voilà, mais après, voilà, je pense quand même. Malgré tout, tu vois, durant cette saison, au-delà du titre, au-delà de l'équipe championne, il y a vraiment eu, ce que j'ai aimé dans cette année, c'est qu'il y a eu pas mal de surprises. Il y a eu tout au long de l'année, en fait, des éléments qui ont rythmé la saison. Du coup, sorti de ces finales, Pierre Armand, toi, quelle est la chose, à ton avis, à laquelle tu repenseras en premier quand on t'évoquera cette saison 2023-2024?
Est-ce qu'on est très original en disant qu'on a vécu la première saison de Victor Wembanyama et du gamin qui va sûrement
C'est plutôt
changer?
de ma liste.
Bah oui, voilà, ça c'est difficile de le mettre en place. En plus, nous, dans la rédaction de Rivers, on avait la chance d'avoir un envoyé spécial sur place. On avait Benjamin Moubèche qui a fait un travail exceptionnel tout au long de l'année pour nous faire vivre l'année rookie Victor. Je crois que oui. Tu sais, quand ce fameux ce slogan qui était à l'époque avec les collections de LeBron, Witness, tu vois, ce truc-là, bon, ben voilà, c'est la chance qu'on a d'avoir pu vivre en entier. On s'est tapé des matchs de merde horribles en voulant voir Victor, qui n'a pas en effet gagné plus de matchs. C'est souvent un argument qu'Antoine et Shai mettent en avant, hein. Il n'y a pas eu plus de matchs gagnés. Quel impact, quelle fierté, quel bonheur de voir, surtout après trois matchs où c'était ah bah voilà, c'est un bust, c'est machin. Bon, comme vraiment tous les haters, c'était comme un gros gâteau d'anniversaire. Victor, il a fait voilà, il a soufflé sur tout le monde et c'est vrai, le terme éteindre tout le monde, c'était vraiment ça. Et il a gagné, je pense. Bon, il a un titre de Rookie of the Year. 1000 fois mérité, donc Victor, mais je sais que toi, il y en a un autre qui t'a beaucoup plu derrière de Rookie, mais évidemment Victor.
Tu parles de qui, d'Anthony Bennett pour le deuxième rookie qui m'a le plus cette année ou
De MVB 2, MVJ2.
Non, mais j'ai beaucoup aimé, effectivement, juste deux mots sur Wembanyama. Ce qui était incroyable en fait dans cette saison rookie, je trouve, c'est limite, c'est au moment où normalement les rookies se prennent le rookie wall en pleine gueule. Et là, en fait, t'as littéralement eu l'impression que c'est. D'ailleurs, c'est le moment où la plupart des experts aux États-Unis disaient, bon, bah, c'est mort, Victor Wembanyama sera pas rookie de l'année, les stats de Chet Holmgren dans une équipe qui gagne, elles sont plus impressionnantes. Et en fait, t'as l'impression que c'est le moment où Victor a dit, bon, ok, maintenant j'ai vu comment ça marche, watch me now. Genre. Et c'est à partir de là où t'as l'impression que. Il avait toutes les informations qu'il avait downloadées pendant la première partie de la saison, s'est mis à les appliquer sur le terrain, et c'est là que sa saison allait encore plus folle. Finalement, c'est sur la fin de saison de voir comment, à la fin, eh ben, il progressait des limites de match en match, comment son impact se faisait de plus en plus sentir. Et faut reconnaître, on ne parlait pas du tout de lui, même si ses stats étaient folles, on ne parlait pas du tout de lui pour le trophée de meilleur défenseur de l'année jusqu'à la mi-saison. Et à partir de la mi-saison, limite, son nom a commencé à apparaître dans des projections de quasiment tous les classements de la ligue, alors pas celui de MVP, on est d'accord, mais même on commençait à se demander s'il mériterait pas des votes pour l'un des trois meilleurs cinq All-NBA. Là, il y a sans doute un petit peu d'enflammage de part et d'autre, mais ouais, saison impressionnante, montée crescendo, et là, au bout du compte, c'est à ça que je pensais en préparant l'émission. C'est je me dis, bon, bah là, il a arrêté depuis un petit moment, il est encore un peu tranquille jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est la plus grosse coupure sans doute qu'il a eu ces dernières années, et tu sais pourtant que il a dû se prendre une coupure pour voilà, souffler un petit peu, se remettre la tête à l'endroit, et tu sais qu'il est déjà en train de bosser, quoi. Et je me demande maintenant, je me demande à quel point on aura sous les yeux un joueur encore plus mature la prochaine fois qu'on le verra, donc probablement, enfin selon toute logique, pour les Jeux Olympiques, quand on voit sa capacité de progression tout au long de l'année. C'est vraiment flippant, quoi.
Non, mais ce qui est fou. Et quand tu dis flippant, c'est le rookie wall, en fait, il a fait comme non. En fait, lui, il l'a même pas pris parce que il a regardé au-dessus, tu vois, comme ça. Il a mis les mains et en fait, il l'a passé avec un bras. Et en fait, au match 7 ou 8 de la saison, le rookie wall, il était presque passé. D'habitude, ils l'ont au milieu, ça démarre fort. Bon, lui, on l'a pas vraiment vu. On a vu une envie complètement folle, un compétiteur. Et moi, là où je dis aux gens, mais watch out people, c'est que tous les joueurs NBA qui sont en vacances, les grands joueurs, parce qu'en effet, tu dis il n'était pas dans la course au MVP, mais combien, et vous l'avez dit en premier, combien d'observateurs ont dit c'est pas grave, il en aura tant et plus. C'est pas, et tu te rends compte, déjà on en est à dire oh, c'est bon, merci de nous avoir laissé celui-là. Tu sais, c'est Duncan qui dit à LeBron, merci de nous avoir laissé celui-là, les autres sont pour toi. Mais c'est qu'on n'a aucune image de lui. Depuis fin avril, on n'a aucune image. Ah, on a Jokic qui fait le con, qui danse, faut voir comment. On a Westbrook qui fait le clampin.
Aldomation. Voilà. Aldomation, j'adore.
Exactement. On a Westbrook qui fait le clampin sur scène avec Kendrick Lamar hier. D'ailleurs, à LA, je sais pas, attention, hein, petite wash bomb. Attention. Si tu regardes bien sur scène, il y a DeMar DeRozan, il y a Russell Westbrook, les gars, et il manque quand même un gars sur scène à LA qui se revendique comme le gars de Los Angeles. Il n'y a pas Paul George. Hein.
Paul George.
Entre nous soit dit, hein, pour faire écho à ce que vous disiez plus tôt cette semaine dans le CQFR. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. En tout cas, on voit juste que maintenant, les concerts de rap, c'est un espèce de bordel. Il y a un mec sur scène et autour, tu as à peu près toute sa famille, ces machins qui dansent n'importe comment. Mais aucune image de Victor.
Ouais, je t'interromps une seconde, je reste sur son truc de Los Angeles. J'ai eu un petit pincement au cœur, première fois de ma vie que j'ai un pincement au cœur pour Drake, parce que je me suis dit, oh non, même DeMar DeRozan, quoi, même son gars DeMar, dont on parlait la semaine dernière, je crois, pour le sketch hilarant avec Will Ferrell, et puis toutes les fois, il était au premier rang des matchs des Raptors, quand j'ai vu DeMar DeRozan sur Not Like Us, je fais, oh non, pas DeMar, pas lui, quand même.
Enfin voilà, donc aucune image de Victor, comme toujours, off court, il y en a très peu. Mais voilà, on ne sait pas où il est. On se doute ce qu'il fait, mais on ne sait pas où il est. C'est bon, ça comme doit être ultra verrouillé. Mais on ne l'a pas vu faire à Roland-Garros. On ne l'a pas vu à Monaco, au Grand Prix. On ne l'a pas vu au final. On ne l'a pas vu. Non, non, non. Il est concentré. Il n'y a pas moyen. Voilà. J'aurais aimé. Ouais. La seule chose, j'aimerais bien qu'il s'exprime pour. Pour la jeunesse et pour ce qu'on sait qui va arriver le 30 juin et 7 juillet prochain et pour aller voter. Voilà, j'aimerais l'entendre parce que c'est quand même, je pense que c'est quelqu'un qui a une conscience assez particulière à ce niveau-là. Mais c'est, voilà, il a disparu des radars. Le rookie de l'année et certainement une des plus grandes stars de la Ligue, un des visages de la Ligue, puisque avant même que la saison commence, c'était impossible de trouver au NBA Store à New York et j'avais dépêché des potes qui allaient trouver un t-shirt, un maillot, rien. Ça a été sold out complètement, un peu comme Caitlin Clark en début de saison. Donc, c'est un respect sans fin pour le gosse est impressionnant.
Ouais, c'est clair. Et puis tu faisais allusion tout à l'heure, mais c'est vrai que moi j'ai aussi adoré la saison en rookie de Chet Holmgren. Je suis curieux de voir. Alors là, on va savourer. Hein. Je suis pas pressé d'être dans 10-15 ans, mais quand on regardera avec le recul cette draft qui était quand même bien profonde, qui était meilleure. Enfin, draft. Je sais que Chet Holmgren était de la cuvée d'avant, mais ce que je veux dire, c'est cette cuvée de rookie en fait, je trouve vraiment intéressante. Même un gars comme Brandon Miller, finalement, tout le monde s'était un peu foutu de la gueule des Hornets quand ils l'ont pris au lieu de à la place de Scoot Henderson. Au bout du compte, on a vu que c'est lui qui a fait, il a fait une très bonne saison rookie aussi. Il y a plein de joueurs intéressants dans cette QV. Ça, c'était chouette, quoi. Vraiment, de voir tous ces jeunes qui performent sur le terrain, même les jumeaux Thompson. Alors, bon, leur saison n'a pas été forcément tout le temps ponctué de succès collectif ni individuel, mais c'était des mecs qui étaient intéressants à suivre. Moi, j'ai bien aimé vraiment toute cette classe de rookies. Moi, finalement, tu sais, pour cette saison, l'un des trucs qui me reviendra en tête, probablement, c'est que c'est la première fois vraiment que j'ai kiffé Kyrie Irving. C'est un joueur qui est...
En deux sur ma liste, hein. On ne s'est pas concerté.
Voilà, alors je sais que là, en plus, on sort après la finale. Voilà, il est passé à côté de sa finale. Ça, je pense que c'est un secret pour personne. Mais c'est vrai que c'est un joueur avec lequel j'ai eu longtemps du mal parce que plein de talent, ça, bien entendu. Mais je ne voyais pas toujours, honnêtement, le rapport entre son talent et les succès de ses équipes, notamment quand il était tout seul. Alors certes, il était très jeune hein, quand il était tout seul à Cleveland, mais il était souvent blessé. Il n'y a pas beaucoup de victoires. Après, peut-être coincé dans l'ombre de LeBron, c'est possible. C'était plus dur de dissocier quel part il avait vraiment dans la victoire, même si les finales disputées par les Cavaliers et le titre gagné avec le comeback incroyable, il met l'un des shoots les plus décisifs en finale qu'on ait vu. Donc je retire rien à tout ça, mais j'avais du mal avec ce joueur quand même. Le passage à Boston m'avait vraiment laissé un sale goût en bouche. Tout le bordel autour de son passage à Brooklyn, beaucoup pour les à côté, pareil, je me demandais, bon, est-ce que tu vraiment, moi je pensais que tu pouvais plus gagner avec ce gars. Honnêtement, je te dis clairement, Pierre, je pense que j'en étais arrivé au point où je me disais, même malgré tout le talent, c'est pas quelqu'un qui va te permettre de gagner. Et je me suis trompé, et je suis ravi de m'être trompé. Et j'ai adoré le Kyrie Irving qu'on a vu cette saison. J'ai adoré le Kyrie Irving qu'on a vu en playoff jusqu'à la finale, où encore une fois, là, je pense que Dallas est tombé sur trop gros. Mais j'ai aimé autant son jeu que j'ai trouvé... C'est l'une des premières fois, finalement, où j'ai trouvé que son jeu était vraiment intégré à l'ensemble d'un collectif. La synergie avec Luka Doncic, tu voyais que ça fonctionnait. C'était dans cette équipe avec Luka, qui est quand même assez casse-couille, à râler sur les arbitres toutes les deux minutes. Lui, je le trouvais toujours très tempéré, rassembleur, aller chercher les uns les autres autour de lui. Bref, j'ai beaucoup aimé son attitude. Même toutes ses sorties dans la presse, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et ça, par contre, ça a toujours été un mec intéressant. Ça, j'ai toujours reconnu ça. Après, certaines de ses positions pouvaient interroger, et puis certaines autour de lorsqu'il avait, fait la promotion, c'est peut-être un terme un peu fort, mais du moins quand il avait partagé ce lien vers un film dans lequel sont tenus des propos antisémites, j'ai trouvé que sa défense était assez catastrophique. Mais là, tout au long de l'année, j'ai trouvé que c'était intéressant, je l'ai trouvé serein même, ou du moins, serein, je pense que c'est le terme, et voilà. Et honnêtement, j'aurais pas cru un jour vraiment que je pourrais kiffer ce joueur, au-delà encore une fois de ses qualités de basketteur que j'ai jamais remis en question, mais j'ai vraiment aimé Kyrie Irving tout au long de cette saison, et même ça me faisait un petit peu mal au cœur finalement de le voir à ce point au fond du trou face à Boston, sachant l'historique qu'il avait avec ce club, j'aurais trouvé ça cool qu'il puisse avoir un peu plus de répondants, mais en tout cas, j'ai hâte de voir maintenant la suite de sa carrière et de son entente avec Luka.
Bah, si on s'en tient à ce qu'il fait d'habitude, il sera donc qu'il va partir cet été.
L'oiseau de mauvais augure.
Ouais. Non, mais... Je sais pas, je suis comme toi. Moi, j'ai lu un Kyrie apaisé, etc. J'ai jamais vu un Kyrie surexcité, comme tu dis, râleur, gouailleur, en train de faisant des mauvais gestes. J'ai toujours vu ce talent brut, certainement un des plus grands talents innés de l'histoire de la ligue. Un des meilleurs handles, un des meilleurs sacs de lay-up qu'on a rarement vu. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais pas. Est-ce que on a tellement dit à chaque fois, non mais c'est la bonne. Est-ce que c'est une, tu sais, la fameuse bombe à eau que tu t'envoies et puis il y a un décompte, tu sais pas quoi, elle explose. C'est quand même un des personnages les plus énigmatiques qui soit, un petit peu comme Kevin Durant. Et moi, je reste persuadé que deux personnages énigmatiques dans la même et un teubé dans la même équipe, ça peut pas marcher. Mais je pense surtout que il a compris qu'il n'y avait pas moyen que ce soit son équipe à aucun moment. Et je pense que c'est là où ça va se faire. Quand il arrive à Brooklyn, l'équipe explose. Donc, il arrive en co-star dans une équipe qui se reconstruit. Et quand tu vas, quand tu allais à New York, tu allais dans n'importe quel magasin qui vendait des maillots, il y avait, et les gamins, tu avais mille fois plus de gamins avec des maillots de Kyrie que de Kevin Durant. Donc, dans tous les cas, c'était quand même un petit peu, il était la tête de gondole, tu vois. Mais c'est pas possible. Tu ne peux pas prendre la place de Luka Doncic aujourd'hui. Je pense que Kyrie, il le sait, il l'a compris. Alors, ça me fait toujours rire quand il dit qu'il se met au service d'eux. Je suis pas sûr. Une finale comme ça, ça fait longtemps qu'il est pas allé. Moi, je reste persuadé que c'était trop fort en face. Et il faut pas en vouloir à Kyrie du tout, parce que quand on a oublié qu'il a quand même mis dans le match 2, il a mis 35 puntos et qu'il marche sur l'eau. En effet, je suis comme toi, ça va limite. J'ai vu des séries quand il était au Nets ou quand il perdait, je criais chier devant ma télé. Autant là, bah, ça me faisait chier pour lui parce que je le trouvais bien. Après, il y a un choix cataclysmique de sneakers pendant toute la série, son truc avec les franges Yakari. Et là, il sort une paire. pour symboliser son voyage tout au long de l'année en playoff, la paire est verte. La paire, elle est vert Celtic. Mais à quel moment, où est le symbole, tu vois? C'est quand même curieux de sortir ta pompe signature de la couleur de l'équipe qui vient de te battre, même si, bon, voilà. Donc, rien à dire, Kyrie est qui, pour moi, met le game winner le plus dingue de l'année sur Jokic, main gauche. Enfin, bon. Et c'est vraiment le truc, ne l'essayez pas à l'entraînement parce que vous allez prendre la honte en permanence. En plus, il est loin. Mais pour moi, c'est le plus beau shoot de l'année. Et quand il l'a mis, ça m'a fait plaisir pour lui aussi. Tu vois, on sent qu'il s'éclate dans cette équipe. Il s'éclate à la Kyrie. Ce n'est pas un gars qui sourit, qui rigole. Mais on sent qu'il prend du plaisir. Et oui, c'est très agréable de le voir comme ça.
Ouais, c'est clair. Juste pour finir sur Kyrie, t'as reparlé de son passage à Brooklyn et du fait que lui et KD soient des personnages énigmatiques. Effectivement, moi, c'était ça. C'est la raison pour laquelle, dès qu'ils se sont mis ensemble, je me suis dit, ça peut pas marcher, en fait. C'est mecs les plus impossibles à comprendre de toute la ligue. Mais il y a un passage, à chaque fois, je suis obligé de le mentionner à chaque fois. Je sais plus si je t'en avais parlé, Pierre, ou si tu l'avais vu. C'est cette vidéo, ce live Instagram, où t'as Kyrie qui est assis en tailleur dans son salon et qui parle avec KD et Kyrie qui explique à Kevin Durant que dans une vie antérieure, lui-même Kyrie Irving a été Kevin Durant, et la tête de l'incompréhension palpable de KD à ce moment. Mais c'est une vidéo, si vous avez un coup de mouron un jour ou que un de vos potes vous saoule, allez mater cette vidéo parce que tu retrouves le sourire, mais c'est instantané, quoi.
Tout ce qui me fait rire, c'est que si KD avait une machine remontée dans le temps, il serait capable de partir avec un ballon pour essayer de jouer contre lui-même avant, tu vois. Tellement il est obsédé par ça, l'image de lui dans un bar en train de prendre des faux shoots, de travailler son... Ah, mais quel personnage. Bon, il manquait plus que Kawhi Leonard et on était bon au niveau des cerveaux un petit peu déconnectés. Quoique, aucun n'est déconnecté. Hein. C'est des génies, hein, chacun dans leur matière. Donc, ouais, c'était cool de voir Kyrie. Moi, j'étais content. Un qui, contrairement à Kyrie, que j'aurais bien aimé voir disparaître, cette année, c'est Draymond Green, qui m'a bien, bien cassé les couilles. Et malheureusement, une des images de l'année, c'est son étranglement sur Rudy Gobert, qui, alors lui, en a pris lui aussi, mais pour d'autres raisons, plein la gueule, qui était pas... J'ai trouvé que le traitement médiatique de Rudy Gobert cette année a été encore plus garbage time que d'habitude. Entre l'histoire de se faire étrangler, il fallait voir les commentaires des gens, genre bien fait pour ta gueule, et après le fait de toute façon... Lui, il joue à Utah, il n'est pas les débats sur encore le Covid, pas le Covid, il ne mérite pas, 4 défenseurs de l'année, bien fait pour sa gueule, il se prend un dunk sur la tronche, et voilà, et regardez Rudy Gobert, et regarde. C'était l'enfer, l'histoire le shoot de Luka Doncic. J'ai détesté, mais Draymond Green, vraiment, cette histoire d'étranglement, la gifle sur Nurkic, des déclarations dramatique tout au long de l'année, et puis qui a entraîné la déliquescence des Warriors et cette scène hallucinante. C'est une des images de l'année pour moi, l'expulsion de Draymond Green et Steph Curry qui en chiale sur le banc de désespoir, quoi. Et ils étaient pas si loin, et tu te rends compte à la fin de l'année à quoi ça se joue. Parce que Draymond Green, il comme par hasard, il est suspendu en finale, il perd, et toute la vie, ce sera « Ah oui, si Draymond était là bah, !» Cette saison, c'est « Ah ben, si Draymond était là, pareil, est-ce qu'ils auraient fait les playoffs ?» Quoi qu'on en dise, des playoffs sans les Warriors, c'est chiant, c'est pas les mêmes. C'est pas le même truc. Tant que Steph Curry est ce qu'il est, on a envie de le voir jouer. Et donc, Draymond nous a un petit peu gâché ça, le fait de pouvoir profiter comme on le souhaite du génie. Puis alors maintenant, en plus de dire par rapport à Jordan Poole, ouais, c'était pas terrible, mais ta gueule. Mais ta gueule, jusqu'au bout, quoi. Et quand on parle pas de lui, il revient, il est là. Hé, les gars, oh, je voulais juste vous dire, il faut que j'existe, quoi.
Ouais, non, bah, je partage notamment sur les Warriors. Moi aussi, j'avais noté les Warriors. Pour moi, c'est la fin des Warriors tels qu'on les a connus. Parce que, bon, y a plein de rumeurs, hein, autour de Klay Thompson, ou autre. Mais je
Bien
pense que
sûr.
dans tous les cas, on retrouvera plus cette équipe, des Warriors. Moi aussi, je fais partie de ceux, sans doute, qui se sont leurrés un peu longtemps cette saison, à voir leurs résultats en Dancy, à me dire, mais si, il y a encore quand même ce potentiel est toujours là. Et finalement, tu arrives en fin de saison, tu dis, bah non, en fait, il a jamais été là cette année, ce potentiel. Même, si, effectivement, comme tu le dis, à très juste titre, les absences répétées de Draymond Green ont fait énormément de tort à cette équipe de Golden State qui a jamais pu trouver un rythme de croisière, en fait, une espèce de, voilà, de façon de fonctionner sur laquelle capitaliser. Mais au bout du compte, en fait, je pense que malheureusement, comme souvent pour les grandes équipes, il y a un moment où tu crois qu'ils sont plus si loin que ça, et en fait, ils sont déjà très loin, quoi. Et cette année, voilà. Alors, pour autant, je pense que autour de Stephen Curry, tu peux toujours bâtir une équipe qui est performante, ou du moins qui est ambitieuse. Le challenge maintenant pour Golden State, ça va être de pouvoir voir si ils vont pouvoir créer ça en peu de temps, parce que, malgré tout, ces années au très haut niveau, au très très haut niveau, sont comptées. Et je pense que quoi qu'il arrive, on retrouvera plus les mêmes Warriors dans la façon de jouer, simplement parce que, voilà, cette époque, elle est révolue. Et ça, c'est un des trucs qui me restera en tête. Et sur la même, tu vois, dans la même ligne d'idée, je pense que ça fait plusieurs années aussi qu'on dit, ouais, LeBron a commencé son déclin, c'est plus tout à fait le même LeBron. Et puis en même temps, ces équipes étaient quand même toujours vraiment, performantes, ambitieuses. Là, je pense qu'aussi cette année, et c'est dingue, hein, de se dire que c'est au bout de 20 ans et plus, simplement, que tu peux te dire, le mec a plus, tout à fait ce qu'il faut pour qu'on puisse créer un contender autour de lui, et juste autour de lui. Je pense aussi que c'est l'année où LeBron ne suffit plus, en fait. Il suffit plus pour construire une équipe qui peut essayer soit de jouer le titre, soit d'aller très loin en playoff, même s'il n'était pas tout seul dans cette équipe des Lakers, où finalement Anthony Davis a été, exceptionnel tout au long de l'année. Mais, voilà, je pense que c'est le moment. Le mec, il arrive dans la ligue en 2003, en 2024, et c'est, au bout de, ouais, 20 ans, 21 saisons, que tu te dis, non, sa 20e saison, que tu te dis, bah, ça commence à être trop juste. Donc c'est assez. Il y a tout un symbole à te dire que c'est le moment où c'est les Warriors, et LeBron, qui commencent à être vraiment sur le déclin, ou du moins où tu dis, bon, bah, maintenant, ils sont vraiment rentrés dans une autre phase de leur parcours. Mais, ça m'est jamais apparu de manière aussi flagrante que cette saison.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire sur LeBron. Après, moi, bon, on va en venir sur un autre point qui m'a beaucoup plu cette année, c'est le In-Season Tournament. Hein. Moi, ça m'a, à part ma rétine, tout le reste a adoré. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire? LeBron est MVP de ce truc, gagne ce In-Season Tournament, une année où bah, c'est les Lakers qui gagnent en décembre, c'est les Celtics qui gagnent en juin, tu vois, c'est
C'est
assez
vrai.
marrant. Et puis en plus, ils avaient trollé en disant on va faire une bannière pour ce truc-là. Bon, je pense qu'ils auraient préféré l'autre. Mais ils sont pas loin, les Lakers, cette année encore. Tu vois. Moi, je trouve que contre Denver, c'est en trompe-l'œil, encore une fois, le score. C'est, voilà, on parlait de Money Time. Ils étaient. Merde, tu vois. Ils ont eu l'occasion. Les Nuggets, on sentait qu'ils étaient au bord de la rupture. Jamal Murray fait ce qu'il fait. Il met deux shoots pour la gagne. Il leur donne pratiquement deux matchs. Mais il n'était pas si loin. Et en effet, tu as raison. Le truc, c'est que ce n'est pas le LeBron de 2012. Putain, c'est le LeBron de 2024. Il est quand même encore au-dessus de beaucoup de monde. Il n'est plus dans la course au MVP. Il n'est même pas cité. C'est la première fois qu'il a aucune voix contre lui. Pour lui, je veux dire. Mais de là, le truc, c'est s'il part en tant que free agent cette année, il va, peu importe là où vous en avez parlé, sur les pistes qui seraient possibles, Mavs, Suns et tout, mais moi je pense que les Lakers s'effondrent. Enfin, ils vont même pas en play-in. C'est-à-dire, si tu t'enlèves juste lui, t'enlèves 25 points, 7 rebonds, 8 passes. Alors attention, hein, je suis d'accord avec toi sur le terme de domination, bien sûr, c'est pas un joueur aussi déterminant qu'avant, mais. Je sais pas si après, bon, c'est toujours pareil, cette histoire qui prend beaucoup de place, ça je suis d'accord, mais c'est tellement la performance comme Steph est tellement banalisée par ces gens-là et normalisée qu'on se rend plus tellement compte. Mais je suis d'accord. Mais encore une fois, regarde, l'intersaison va être ultra animé et ultra suivi, et mine de rien, sur le simple nom de James. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce que va faire son fils? L'an prochain, on sera hyper hypé de voir s'il va jouer, si le Bronny est drafté, bien sûr, et par qui, ce qui va se passer. Ce seront les matchs les plus suivis. S'il joue pas avec son fils, le moment, t'imagines, où il va jouer contre. Enfin, t'imagines l'audience qu'il va y avoir. Donc, mine de rien, ce gars, l'an prochain, sera omniprésent, quoi qu'il arrive. Mais en effet, là où tu as raison, et ça en arrivera à mon prochain coup de cœur, c'est la 2023-2024, c'est la jeunesse au pouvoir et une équipe dont là, on est en train de parler de qui va se renforcer. Mais en attendant, tu as l'OKC Thunder qui est là, qui a fait ce qu'il fallait. Tout le monde a dit, ils se font éliminer, ils n'ont rien dit. Ils ont juste dit, vers l'an prochain. On a le temps. Ça me fait penser, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux Bulls de 89-90, où Détroit dominait, mais où tu l'entendais, même Isaiah Thomas et les gars disaient, on a encore un an de répit, mais bon, on va se faire taper, c'est sûr. Et je pense qu'ils sont tous là à dire, ouais, attention Denver l'an prochain. Et je pense que c'est leur plus grande force au Thunder, c'est que personne ne parle d'eux. On en parle nous parce que ça nous fait plaisir, mais le grand public ne les met pas jamais tout en haut. Et la saison incroyable de Shai, qui est un joueur hors norme et d'une élégance rare. Et voilà, profitons de voir ça aussi. Mais la jeunesse de même si elle est relative des Wolves. Même si elle est relative des Mavs, tu vois, je sais qu'il y a un joueur que toi tu adores et qui a pour moi qui est une future star de la ligue, c'est Derek Lively, incroyable joueur. Donc la jeunesse au pouvoir, en tout cas cette année, plus que jamais, j'ai trouvé où tu as raison que ce soit tous ces joueurs de Paul George, de LeBron, de Steph, de Draymond font leur âge, ça y est, il est temps une nouvelle page se tourne, ça j'en suis bien conscient.
Mais OKC, si, je suis totalement d'accord avec toi. C'était l'une des équipes les plus kiffantes à avoir joué cette année. L'an dernier déjà, mais cette année encore plus avec la montée en puissance. La confirmation en fait de Shai au plus haut niveau. Et puis la saison incroyable de Chet Holmgren, la montée en puissance de Jalen Williams. C'est intéressant parce que cette équipe du Thunder, je pense que ça sera vraiment l'une. L'air de rien, tu vois, ce que je partage ce que tu dis sur leur talent pour leur talent, leur potentiel, mais l'air de rien, je pense que cet été peut être déterminant en fait, vraiment dans l'avenir de cette franchise. C'est à la marge, mais les changements ou les choix qui vont être faits cette année peuvent vraiment, je pense, te faire passer soit d'un. Enfin, faire de toi l'équipe qui va vraiment être dominatrice et qui va être contender année après année, ou si tu te foires, on sait que ça peut aller très vite et on se rappelle de cette autre équipe du Thunder, celle emmenée par Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, qui sont allés en finale NBA, où tu dis l'avenir c'est à eux, ils vont être injouables et finalement bah, tu re-signes pas Harden et derrière ils font plus aucune finale. Alors là ils n'étaient pas en finale ils n'étaient pas en finale NBA le Thunder, mais je pense que c'est aussi le même groupe de management, je veux dire c'est le même staff, donc je pense qu'ils ont appris aussi de ces erreurs-là entre guillemets et ça va être moi, j'aurais vraiment un œil braqué sur la franchise pendant tout l'été, même sur les petits changements à la marge. Je pense que ça peut vraiment faire une énorme différence. En tout cas, ouais, quel kiff chez toute l'équipe. Ouais, j'adore cette équipe.
Une
Clairement.
osmose, une absence d'ego particulier. J'aurais bien aimé voir Steven Adams dans cette équipe-là, tu vois,
Mais
pour
oui, mais
chapeauter,
oui.
arrêter
Mais oui.
pour
Là, tu
un
me parles.
côté de Chet Holmgren. Ouais, ça aurait été parfait. Non, non, mais et puis on parlait de jeunesse, on parle de celle de l'Ouest beaucoup, mais même les Pacers, même Tyrese Haliburton, ça a été quand même l'éclosion de d'autres talents, d'autres visages. Cette année, on était ultra hypé qu'on allait avoir un nouveau champion avec des nouvelles têtes, un nouveau MVP des finales, tu vois. Même si Tatum et Brand sont plus tout jeunes, même s'ils le sont encore. En tout cas, on avait, voilà, c'était vraiment, ça y est, c'est une nouvelle génération qui arrive, donc c'était top. Et c'est pour ça, quand on me dit, beaucoup de gens disent, ah ouais, mais Team USA, mais quand tu montres le visage de Team USA aujourd'hui et le starting five qui pourrait être là, bah, c'est que des gars vieillissants, quoi. C'est LeBron, c'est KD, c'est. Alors attention, hein, LeBron, KD, Steph, Kawhi et on va dire Joel Embiid, c'est monstrueux. Mais c'est des gars qui sont, pas plus forcément. Moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient leur âge. Même KD, cette année, je l'ai trouvé en playoff, je l'ai trouvé fatigué, quoi.
Complètement, ouais. Ouais, non. complètement d'accord avec toi, c'est clair. Il y a même le Magic aussi, dont on n'a pas parlé, mais parmi les jeunes équipes pleines de talent, Banchero, moi j'ai adoré toute sa saison. L'autre truc, moi, vraiment, qui m'a fait kiffer, j'en profite pour placer une dédicace à mon gars Guillaume Laroche et à mon pote Cédric, c'est le retour des Knicks quand même sur le devant de la scène, avec un état d'esprit pour les vieux de la vieille comme nous là, où tu dis ça c'est l'héritage, ça c'est les Knicks que j'ai connus quoi, avec c'est dur, ça joue sans ego, les uns pour les autres, avec certainement un petit peu de limite sur les rotations en fin de parcours là, ils étaient un petit peu quand même, ils étaient rincés, mais voilà. J'ai trouvé ces Knicks enthousiasmants par la manière de jouer, par leur altruisme et puis par l'esprit de corps en fait. Que, alors à tort ou à raison, on a longtemps attribué à cette équipe en raison de ses performances dans les années 90, que ça soit au début des années 90 ou même l'équipe qui va en finale NBA en 99, il y avait quand même ce côté-là quoi. Et c'était un kiff comme de voir le Garden vibrer comme ça, le voir vibrer en play-off, gagner des matchs. Qu'on soit fan des Knicks ou pas, c'est toujours un peu particulier je trouve de voir New York au top.
Ah oui, c'était agréable. Puis c'est New York reste le plus gros what if de ces playoffs, dans le sens où c'était eux qui avaient le plus grand nombre de blessés. Donc on aurait aimé voir. On peut en parler des heures de savoir si avec le retour de tout le monde d'un coup ça aurait fonctionné comme ça a fonctionné là. Mais voilà, je pense qu'il y a des gars qui ont gagné leur place dans le cœur de New York. Et on sait que c'est pas facile. Les Josh Hart, les Dante DiVincenzo. Voilà, c'était super de voir ça, et surtout un des joueurs les plus hallucinants de comme quoi les petits gauchers comme ça avait été le cas avec Isaiah Thomas, mais là on a vu Jalen Brunson qui a fait des performances qu'on n'avait pas vues depuis 1988 pratiquement. C'est alors certes un peu seul, mais je suis pas ça m'aurait bien emmerdé de voir ces Knicks passer sur un coup d'éclat ou une folie du Garden sur ce match 7 contre les Pacers et se faire désosser par Boston en finale de conf sans Brunson, sans personne. Donc dans l'absolu, c'est sûr qu'ils ont passé qu'un tour de play-off, donc bon, c'est dommage, mais voilà, est-ce que l'avenir leur appartient ? Je sais pas, mais en tout cas ils nous ont bien fait kiffer. Et puis en plus, ce qui était génial, c'est voir le Garden play-off game 7 tous les dimanches à 19h ou 20h heure française. Ça a pas de prix ça.
Je sais pas si t'as vu cette petite vidéo de Josh Hart qui expliquait son rôle au Knicks. Tu vois, il disait, moi mon rôle au Knicks c'est simple, c'est de courir dans tous les sens et de foutre le bordel. J'ai trouvé que c'était, c'est un joueur qui a compris son rôle dans son équipe. C'est une équipe dans laquelle tout le monde a compris son rôle, tout le monde le respecte. Et c'était kiffant de voir New York.
Ouais, c'était chouette. Ouais. Moi, dans les trucs de cette année, on va dire ça a été une année de grosses perfs individuelles, gros cartons. Il y a eu le score de Luka, il y a eu le score de Joel Embiid, il y a eu celui de Giannis aussi, qui met ses 64 points et qui dépasse donc le même jour Karim Abdul-Jabbar comme meilleur scoreur, et certainement la scène la plus gênante qui a gêné la gêne elle-même, c'est cette bagarre de maternelle, mon ballon. C'est mon ballon. Tout ça parce qu'il y a un rookie qui a mis ses premiers points à qui on a donné le ballon comme le veut la tradition. Lui, il voulait son ballon. Il part comme Isaiah Stewart là l'autre jour, comme un fou dans le vestiaire. On croit qu'il va y avoir une bagarre. Et j'aurais aimé voir la tête. Tu sais qu'il y a une caméra là qui filme la tête du vestiaire des Pacers quand il voit rentrer l'autre Golgoth en furie en disant « C'était mon ballon ». Ils ont dû le regarder en me disant, mec, mais où on est quoi. Si vous avez vu le documentaire sur Giannis, c'est un type qui attache beaucoup d'importance au symbole, qui est un jeune homme à fleur de peau, qui pour lui chaque jour est une victoire par rapport à l'enfance terrible qu'il a eue et par rapport à son histoire familiale et tout. Donc je peux comprendre le symbole d'avoir ce ballon, mais les images étaient, et je me rappelle même les commentaires de Doris Burke, c'était elle qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que Doris Burke dit un truc genre, il ne serait pas en train d'aller chercher son ballon quand même. Donc c'était un drôle de moment, en tout cas, un vrai moment de flottement, quoi.
C'est clair. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que malgré tout, tu vois, d'un côté, malgré l'absurdité de tout ça, un des premiers trucs qui m'est venu en tête, c'est je me suis dit, mais attends, mais ils sont à Milwaukee, qu'est-ce qu'ils font à prendre un ballon? Les Pacers, là, ils sont pas chez eux. Ils ont qu'à ramener leur propre ballon, tu sais, comme dans les matchs de championnat où tu viens, t'as un match à l'extérieur, tu viens avec tes trois ballons sur l'épaule pour faire l'échauffement. Bah, ils avaient qu'à ramener leur ballon s'ils voulaient repartir avec. C'est comme ça, quoi.
Oui, surtout que c'est bon. Bref, j'ai trouvé ça un peu. Ça fait partie des bloopers de l'année, en tout cas, parce qu'il en faut à chaque fois pour qu'une année soit belle. Il faut deux, trois conneries.
Ouais, allez, moi j'avais aussi pour cette année bah, l'ascension fulgurante d'Anthony Edwards. Alors ça s'est mal terminé entre guillemets la dernière série face à Dallas. Là aussi, je pense qu'il a tapé dans le mur. Il a fini par taper dans le mur, mais voilà, les performances d'Anthony Edwards pendant ses playoffs, les face-à-face avec Kevin Durant où il se chauffe et puis il se répond de panier pour panier. Enfin, vraiment c'est l'année, je pense, où. Parce qu'on savait que le talent était là, on savait qu'athlétiquement c'était un truc de dingue, et t'as l'impression que finalement il a fini d'imbriquer toutes les pièces du puzzle, il a fini de tout imbriquer cette année. Ça commence par la défense, parce que c'était un des aspects sur lesquels on avait parlé à plusieurs reprises avec Shai et Antoine dans les SQFR, à se dire ouais, mais s'il veut passer un cap, ça passe par là. Et là, moi j'ai beaucoup aimé le voir prendre ce challenge, même si ça n'a pas été payant contre Dallas. Il a vu que défendre sur Kyrie Irving, c'était pas aussi simple et aussi cool que ça pouvait en avoir l'air. Mais ça m'a vraiment plu, quoi. Son attitude, cette espèce de sourire, même après les défaites, à dire on reviendra au match 5 avec le sourire. Et puis, et en fait, cette espèce aussi de fraîcheur, quoi. Tu sais, où il dit, au journaliste, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bien sûr, je crois qu'on va revenir au prochain match, c'est comme ça, quoi. Mais sans que ça soit non plus dans une espèce d'un côté un peu bravade, tu vois. J'ai trouvé que sa manière de faire du trash talking, elle était au bon endroit sur la ligne, tu vois. C'est les aspects du trash talking que j'aime bien, parce que j'aime bien ça fait partie du sport, mais sans passer une ligne et sans non plus que tu puisses croire que c'est autre chose que juste voilà, c'est on parle pendant un match. Tu sais, je repense à il y avait eu un match pendant la saison entre lui et entre les Warriors et les Wolves où il va au panier, puis il y a Draymond qui revient, qui lui met une espèce de coup de machette sur les bras pour faire faute, mais une faute hyper dure. C'est un match de saison régulière, quoi. Et t'as Anthony Edwards qui se retourne vers lui, qui dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et t'as tout de suite Draymond qui monte le ton et qui fait, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est fou. Quand tu connais la différence d'âge entre les deux, c'est magnifique, parce que c'est Anthony Edwards qui le regarde, genre, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Personne va se battre, hein. On sait que personne va se battre, donc pourquoi tu fais le fou comme ça? J'avais adoré cette attitude, et je trouve que c'était assez symptomatique du personnage.
Le charisme. Voilà. Pour moi, c'est le charisme. J'ai un joueur aussi charismatique à son âge depuis très longtemps, qui chaque conférence de presse, c'est un bonheur. Et tu vois qu'il est charismatique parce que chaque trash talking est une punchline. Chaque moment qu'il fait en fin de match devient un mème ou un moment iconique, tu vois. Bon, il a les deux plus grosses actions de l'année. Il a un des dunks les plus fous qu'on ait vu. On l'a vu sous tous les angles. Incroyable. Et le plus beau compte de l'année également. Donc, il avait gagné ces deux awards-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, un joueur ultra spectaculaire qui plaît à tout le monde. On a l'impression que rien lui, ce sourire carnassier. Bon, on l'a beaucoup comparé en disant que c'était le fils d'eux. Mais on va pas dire le mot parce que sinon, rebelote, on va nous dire, on parlait que de lui. Mais voilà, ça, vraiment un charisme comme j'ai rarement vu. Et je fais. Une petite parenthèse, il y a eu, je t'ai envoyé, on s'est envoyé dans la semaine, cette vidéo pleine de mauvaise foi, on est d'accord, de Jason Tatum qui essaye d'avoir son moment iconique à la fin de la finale, le moment dont on va se rappeler, comme Kobe qui monte sur la table en écartant les bras, qui fait sa fameuse photo dans le vestiaire, comme Kevin Garnett qui crie Anything's possible. Il essaye tout le long avec son fils, pas son fils, de crier What they gonna say now, et machin, et de monter sur la table. Il est bon, voilà, c'est le charisme, il est là, ça n'enlève rien au talent. Mais quand les gens disent, moi, j'arrive pas avec Tatum, c'est juste que il a pas ce charisme-là, cette étincelle qui fait que bah, Anthony Edwards, il est fascinant. C'est-à-dire, quand il est sur le terrain, il prend la lumière, alors qu'il est pas très grand, mais il est athlétique, et je pense qu'il nous rappelle beaucoup les joueurs des années 90 pour ça. Cette faculté à alterner le tir de loin, le mid-range, attaquer le cercle et tout, et puis et puis un comportement exemplaire, c'est-à-dire dans la victoire, dans la défaite, rien dire, pourtant il prend des fautes incroyables, jamais rien dire sur ses coéquipiers, toujours être là. Ouais, l'avènement d'une. Pour moi, cette année, l'avènement d'une superstar, vraiment.
Ouais, carrément, parce que même en conférence de presse, tu sais, il y a des moments où il dit des choses vraies, des vraies critiques à ses coéquipiers, mais ça passe, tu sais, comme il y en a une notamment pendant les playoffs où il se retourne vers Karl-Anthony Towns et il lui dit, mais qu'est-ce que je t'avais dit à propos des fautes là? Un énième match où Karl-Anthony Towns prend 4 fautes en 3 minutes là. Et en fait, c'est marrant parce que tu sens que Karl-Anthony Towns le prend pas mal, pourtant, tu pourrais dire, bah, il se fait afficher devant les journalistes, tu vois. Et ça passe en fait. Ça passe parce que je pense que tous ces discours-là, ils doivent être aussi faits en coulisses avec tact. Je pense qu'au sein de l'équipe, tout le monde a compris que c'était quand même lui le meilleur. Donc là aussi, en termes d'ego, d'hierarchie d'équipe, je pense que les choses sont plus claires que par le passé. Et c'était cool de voir ces Wolves. Honnêtement,
Ouais, très cool.
c'était vraiment une belle équipe. Voilà, qui est tombé face à un joueur trop fort, je pense, en Luka Doncic, et puis même une paire trop forte, hein, parce que Kyrie a été très bon aussi dans cette demi-finale, dans cette finale de conférence. Mais c'était cool, et c'est pas si souvent que ça qu'on a pu dire que c'était cool de voir les Wolves. Franchement, les dernières fois, c'était sans doute Kevin Garnett, l'année où ils vont en finale de conférence, justement, avec Sam Cassell, Latrell Sprewell et compagnie. Il y a eu des équipes sympas avec Kevin Love et Ricky Rubio, notamment, mais derrière, c'est quand même une franchise qui a tout le temps été dans le dur. Donc ouais, c'était cool ça. C'était vraiment un des aspects hyper sympas de la saison.
Tout était cool, le maillot était ultra cool, ce maillot blanc rétro. Ben, il y en a un qui est meilleur sixième homme, un qui est meilleur défenseur, un qui est meilleur sportsmanship award. Ça tourne bien, c'était chouette, c'était beau à regarder. Et puis surtout, il lance dans ces playoffs qui ont été pour moi, où la défense, pour une des rares fois depuis des années, a été le centre de tout, à l'ouest en tout cas, hein, je parle à l'ouest. Ils ont. C'était, je sais plus quelle série, bah la série contre Phoenix, où je n'avais pas vu une défense pareille. Et je me rappelle même toi, en CQFR, tu disais, mais attends, mais ils ont défendu. Alors, soit les arbitres sifflent plus, et c'est là où j'avais trouvé ça génial, parce qu'on se dit, oh putain, les arbitres sifflent moins. Et là, tu as vu des défenses. Et pourtant, on avait été les premiers, je me rappelle, dans les pareils avec Shai, tout ça, à dire, s'il y a une équipe qui peut les emmerder, c'est les Suns. Ils les ont ruinés. Et
Bah,
ce
je
run
m'étais
de playoff.
complètement gouré.
Par contre, il est une superstar, il va être attendu partout. On va voir maintenant ce que ça donne. Et j'ai surtout hâte de voir son statut au sein de Team USA parce que je pense honnêtement que si les choses se font comme elles doivent se faire naturellement, c'est lui qui aura les ballons soit en fin de match, soit quand ça va chauffer, qu'il va y avoir besoin de tempo. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir parce que la dernière Coupe du Monde, ça avait été lui le patron. Là, j'ai hâte de voir comment il va s'imposer au milieu de toutes ces légendes-là.
Ouais, ou s'il accepte. Parce qu'en fait, tu vois, dans le jeu, alors bien sûr, on parle beaucoup de Jordan parce qu'il y a un aspect physique. Moi, finalement, il me fait beaucoup penser à Dwayne Wade. Bah voilà, pas une très grande taille, mais athlétique comme c'est pas permis, avec un jeu en évolution. Et on se rappelle qu'avec Team USA, bah, c'est Dwayne Wade qui avait accepté de sortir du banc et qui avait pris ça à bras le corps au bout du compte, notamment en étant un défenseur incroyable, en volant tout un paquet de ballons. Et je suis curieux de voir, effectivement, comme toi, quel sera son rôle dans Team USA pour Anthony Edwards et comment se passera la répartition des rôles.
Ah oui, c'est sûr.
Moi, j'avais un autre élément important, je vais le mettre en doux parce qu'effectivement, on va retenir de cette saison la hype monstrueuse, parfois démesurée autour de Caitlin Clark dans le basket féminin, elle qui n'a pas été retenue de manière assez logique, je pense, pour avec Team USA chez les filles. Mais au-delà de Caitlin Clark et du phénomène qui est autour d'elle, moi je retiens quand même l'intérêt pour le basket féminin symbolisé par les performances en termes de, bah de comment dire, d'audience des finales NCAA. La première fois que la finale NCAA féminine battait même à plate couture la finale de la March Madness chez les garçons. Là, l'intérêt qui est palpable autour de la WNBA, et je pense qu'il faut pas parler que de Caitlin Clark. Je suis pas le plus grand spécialiste de basket féminin, hein. C'est plutôt Shai chez nous qui est vraiment l'expert en la matière. Mais moi, ce que j'adore en fait dans ce qui se passe aujourd'hui en WNBA particulièrement, en fait, c'est cette classe de jeunes joueuses, celles qui sont rookies cette année, d'autres à venir comme Juju Watkins ou d'autres, ou Paige Bueckers de UConn. C'est la maturité en fait de ces jeunes athlètes, leur charisme, leur personnalité. Je trouve qu'elles ont toutes des personnalités différentes, que ce soit Cameron Brinks qui vient de se blesser gravement au genou ou Angel Reese, c'est pas du tout les mêmes personnages, mais par contre il y a vraiment une personnalité forte. Je trouve qu'elles s'expriment bien et elles arrivent au moment parfait, au moment où il y a les réseaux sociaux qui jouent à plein régime, où il y a un intérêt accru encore grâce à Caitlin Clark et à ses performances. Et je pense que tout est en place vraiment pour qu'il y ait un effet durable sur l'intérêt autour du basket féminin. Je pense que c'est vraiment un des éléments clés de cette année, ou du moins une des choses que je retiendrai à coup sûr.
Ah, mais c'est certain. Alors, Cameron Brink, la pauvre qui se pète le genou à quelques semaines des JO où elle aurait pu aller. Il y a ce qui est symptomatique dans cette histoire, c'est qu'on en est, tu vois, je trouve que c'est alors, attention, quand je dis c'est formidable, non, c'est horrible qu'elle se soit fait mal, mais le simple fait qu'on ait parlé du fait qu'une joueuse de WNBA s'est fait une rupture des ligaments rookie, enfin, c'est totalement inédit, tu vois. Et ça, je trouve ça. Alors, après, il y a un truc qui me gêne en ce moment, et Shai qui est spécialiste, c'est que le traitement de la WNBA en ce moment est beaucoup tourné autour de bagarres. Il y a beaucoup d'images de bagarres, de mauvais gestes, de là. C'était limite, il fallait aller à la Cour suprême pour la faute d'Angel Reese sur Caitlin Clark, qui, elle, à chaque match, la pauvre, passe une heure à dire non, mais c'est bon, je vais bien, ça va. Et chaque match, elle est là justifiée en disant ça va, c'est bon. Elle est scrutée. J'aimerais vraiment, c'est la saison rookie de Caitlin Clark en WNBA, faut avoir les épaules parce que. Ok, il y a les réseaux sociaux, elles sont ces jeunes filles qui sont rompues à l'usage de ça. Angel Reese, par exemple, elle les utilise. Enfin, tu vois, elle se crée un personnage de Rodman totalement survitaminé. Moi, j'adore ce personnage aussi. Quand tu vois leur arrivée tous les jours à ces joueuses dans les tunnels où elles arrivent, elles sont. C'est des lionnes, quoi. Tu les vois, même Kelsey Plum, tout ça, tu les vois, elles arrivent sûres d'elles. Alors qu'avant, tu avais l'impression que c'était des jeunes femmes qui arrivaient, limite, elles s'excusaient, tu sais, elles voyaient le photographe, le truc qui était là. Là, maintenant, elles s'arrêtent, elles posent, prennent mon téléphone, elles font des. Je trouve que c'est génial. C'est malheureusement encore sous-diffusé, mais faut leur rendre hommage aussi parce qu'elles font une saison ultra concentrée. Et le niveau, je trouve, est de plus en plus incroyable. Alors certes, la NCAA a beaucoup amené, et Caitlin Clark, bien sûr, mais on voit éclore une génération, même si encore derrière les superstars, les Diana Taurasi, etc., mais quel bel avenir pour toutes ces joueuses, et quel plaisir de les voir évoluer. Et on se rend compte de l'intérêt, parce que la WNBA est en train de se créer sa propre... mythologie, tu vois, avec ses gentils, ses méchants, ses rumeurs, c'est ça. Finalement, c'est ce qui avait marché au début des années 80, au milieu des années 80, quand David Stern avait créé cette narration aussi. Bah, finalement, c'est ce qu'on est en train de faire, et grand bien, et tant mieux. Et au moins, on va plus jamais se dire oh, la NBA, c'est fini, on a 6 mois à rien regarder. Non, regardez franchement les matchs de WNBA, regardez Aja Wilson, regardez.
Qui fait ça monstrueuse.
Regardez jouer Las Vegas, regardez jouer le match de New York, les Liberty là qu'elles ont joué, où elles ont battu un record de tir. Bon, là, quel bonheur. Et puis les salles sont pleines, il y a de l'ambiance. Franchement, regardez tout ça, ça va vous faire patienter, et même plus que ça, ça va vous faire kiffer.
Et je vais quand même pointer du doigt un point noir quand même autour de toute cette hype autour de la WNBA. C'est, mais quel dommage que nos Françaises n'y soient pas.
Ah ouais.
Pour raison d'équipe de France, et pour raison parce que pression mise autour des meilleures joueuses françaises pour qu'elles se préparent pour les JO et qu'elles n'aillent pas en WNBA. Alors il y en a quelques-unes, hein, Olivia Epoupa, il y a Lou Lopez aussi si je me trompe pas, mais il y a pas Gabby Williams, il y a pas Marine Johannes et compagnie. C'est voilà, encore une fois une occasion ratée. Je pense que pour le coup, c'est un petit peu symptomatique du double standard qu'il peut y avoir entre le basket masculin et le basket féminin. Bon, ça serait la place pour une autre émission dédiée même à ça, mais quelle occasion ratée.
Comment mieux se préparer, la limite, que en te mettant face à face les meilleures joueuses du monde. Enfin bon, bref.
Bref. Ouais. Bref. Bref.
On parlait justement de basket féminin. Moi, un truc qui m'a beaucoup plu cette année, c'est certainement pas le All-Star Weekend, qui a été pour moi une parodie, mais J'ai adoré le duel Steph-Sabrina. Voilà, j'ai trouvé ça génial parce que déjà, il était vraiment bien présenté. Steph a joué le coup et le jeu. Sabrina a joué le jeu à fond. C'était une rivalité quand même, il faut voir, entre commercial également, entre Under Armour et Nike. Chacun jouait gros. Mais ça a tenu ses promesses. C'est le seul truc qui a tenu ses promesses. Voilà, faut voir que Sabrina, elle shootait des distances qui sont pas les siennes et c'était pas loin quoi. Elle a failli battre le meilleur shooter de l'histoire et donc j'ai trouvé ça génial. Sa réaction à lui qui était là, j'ai eu chaud. Elle qui voilà, j'ai trouvé. C'était vraiment le meilleur moment. De toute façon, les concours de shoot finalement sont qui étaient avant le parent pauvre des All-Star Weekend sont devenus les seules valeurs réellement sûres de cet événement qui n'en est plus vraiment un.
Oui, et puis on a déjà hâte, moi j'ai déjà hâte de voir celui de l'an prochain, parce qu'à un moment il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être Klay Thompson et Stephen Curry face à Sabrina Ionescu et Caitlin Clark. Alors, on ne sait pas si ça sera bien le cas, mais moi effectivement, visiblement, c'était parti pour être répété, que ce soit pas juste un one shot, et effectivement j'ai déjà hâte de voir le prochain concours.
Un autre truc qui était plus chiant, c'est les blessures quand même cette année, parce que on est obligé de revenir. Ça nous a privé de, par exemple, de Ja Morant qui a fait une partie de la saison, elle est pour sa tronche. Il l'avait cherché. L'autre partie, il revient comme dans un film hollywoodien, game winner, des performances de fou, des dunks dingues, et puis rideau. Voilà, Joel Embiid. Pareil, qui part pour une saison MVP complètement sur des bases faramineuses et rideau, Kawhi et rideau. Et franchement, je sais pas dans quel état tous ces gars vont arriver à Paris. Mais je trouve que Joel Embiid a joué avec le feu. Faut voir comment la dernière fois qu'il se pète, là en se lançant un alley-oop sur la planche. Enfin voilà, c'est pas ton rôle de faire ça. Enfin, tu vois. Est-ce qu'on aurait vu le général de Gaulle mis en examen, tu vois? Non, mais est-ce qu'on aurait vu Tim Duncan faire ça, tu vois? C'était pour faire le parallèle avec ça. Est-ce qu'on aurait vu Tim Duncan faire s'envoyer un alley-oop sur la planche au milieu de la raquette pleine? Je trouve que ces joueurs, on dirait qu'ils n'arrivent pas bien à se connaître. Et j'ai trouvé que Joel Embiid est un joueur exceptionnel, mais que tu vois, tu disais certains ont fait leur âge, etc. Moi, Joel Embiid, là, pendant les playoffs, j'ai l'impression de voir Bill Russell sur le terrain, quoi. Un vieillard avec un talent.
Il était bon, pourtant, ça qui est fou. Hein.
Avec un talent, mais c'est ça qui est fou. C'est cette impression qu'il donne. Bon, alors après, il avait son problème de paralysie faciale. Enfin, il n'y avait rien pour lui, le pauvre Joel Embiid. Mais quel joueur sensationnel. Et c'est pour ça que je disais, les blessures nous ont un peu flingué les playoffs, on va pas se mentir. Je le sais, toi, des playoffs sans Jimmy Butler, c'est pas vraiment des playoffs non plus. On était content de voir une finale avec tout le monde en bonne santé. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Attention. Après, ça fait partie du truc, mais il y a rien de tel que d'arriver en playoffs avec des équipes qui sont pleines, entières et compétitives au niveau physique aussi.
Ouais, c'est clair. De toute façon, les blessures, c'est vraiment ce qu'il y a de pire à tous les niveaux. Hein. Niveau amateur comme niveau professionnel, c'est ce qui brise le plus le cœur, je trouve.
Ouais, complètement, complètement. Et là, ça nous a un peu emmerdé. Ouais.
Écoute, moi, je pense que j'ai fait le tour des faits les plus marquants, moi, dont je me rappellerai pour cette saison. Je sais pas si toi, t'en avais d'autres en tête.
Alors moi, j'en ai deux. Alors, il y en a. Qu'est-ce que j'ai de. Ouais, j'en ai deux. J'ai. Il y en a un qui m'a quand même bien fait rire. C'est, tu parlais du gars qui est jamais au bon endroit au bon moment. C'est Grant Williams.
Il cherche un peu, je crois aussi.
tradé donc à Boston, pas au bon endroit au bon moment. Tradé à Mavericks, pas au bon endroit au bon moment. Et qu'on voit dans le vestiaire des Mavs de Boston, là, donc toujours pas au bon endroit au bon moment pour célébrer. Je suis rarement avec Austin Rivers qui l'a dézingué là, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où tu appelles tes potes, tu envoies SMS, tu vas les voir chez eux, tu vas les croiser et tout. Va pas dans le vestiaire. C'est leur moment. Déjà, c'est leur moment. C'est pas le tien. Et tu passes pour un con, toi. Ah ben moi, j'étais là. Tu vois, Marcus Smart, il est pas venu. Bon, il doit avoir un peu les glandes. Mais tous les anciens des Celtics sont pas venus taper dans la main de tout le monde. Donc je pense que Grant Williams, en plus, il parle beaucoup. Donc voilà, c'était j'ai un peu de peine pour lui quand même. Et puis je pense que on peut pas clore cette saison sans parler de Luka Doncic qui a été aussi brillant qu'agaçant dans ses finales. Je trouve qu'il a été alors beaucoup de gens ont dit c'est calmé. Moi j'ai pas vu un gars apaisé du tout. J'ai vu un gars tout le temps râler. Je sais pas si tu as vu cette photo. Il disait la statue de Luka à Dallas. Elle sera comme ça. Tu vois, à gueuler sur un arbitre, tout le temps à gueuler, tout le temps à tomber par terre, à râler après l'arbitre. Dallas a défendu à 4 tout le long, un petit peu comme faisait James Harden. Le pourcentage de blow-by dont Antoine a parlé, que soit pratiquement 66%, 62% et 58%, les trois plus gros pourcentages de blow-by, c'est-à-dire le fait d'être passé par ton attaquant de manière sèche, de l'histoire appartiennent à Luka Doncic sur cette seule campagne de playoff contre OKC, contre les Clippers et contre Boston. Je sais pas, j'ai trouvé un personnage qui atteint ses limites, qui devient antipathique et une caricature de lui-même, un génie absolu. J'ai un maillot de lui dont je me défais jamais, tu vois. Et pour le coup, j'ai peur de voir Luka qui va arriver au JO parce que, un, il est crevé, deux, il va être ultra nerveux. Là, il se tenait parce qu'il avait Kyrie en face. Là, il va arriver option numéro 1, 1,5, 2, 3, 4. Je ne sais pas qui va prendre des shoots dans cette sélection. Il va être, je pense qu'il va être comme un fou auprès de l'arbitrage. Donc, je ne sais pas quel Luka on va voir, mais ça risque de ne pas être très, très joli à Paris. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, ça n'enlève rien à sa saison et à une campagne de playoff folle. Mais pour la première fois, j'ai trouvé qu'il y avait des critiques qui s'élevaient et les compilations de sa défense font mal. Et je trouve que c'est la première fois qu'on en parle comme d'un joueur presque, alors on n'en est pas là, mais presque unidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'a d'intérêt que sur d'un côté du terrain et qui peut même être vu parfois comme un handicap. C'est la première fois que des gens, la parole se libère à ce niveau-là. On en est loin encore, hein, Luka, handicap, putain, merci bien, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Mais c'est vrai qu'il a eu une attitude qui, moi, enfin, m'agace parce que j'étais à fond pour ça et qu'à la fin, je disais, bon, bah, tu sais quoi, les 6 fautes, tout ce qui s'est passé là, ce conflit, il est en conflit permanent et je pense qu'à bout d'un moment, ça va. Il va lui-même, je ne comprends pas qu'il ne se lasse pas lui-même. Alors, c'est peut-être sa manière d'être, mais.
Ouais, bref. De toute façon, sur l'attitude, je te comprends. Après, les gens qui pensent que Luka est un boulet, je pense qu'ils se trompent un petit peu. Hein,
bien sûr qu'ils se trompent, c'est bien ce que je dis. Hein,
mec, il finit meilleur marqueur, passeur, rebondeur, j'ai plus de tous les playoffs.
Toutes les catégories statistiques.
Voilà. Dallas, c'est. Tu l'enlèves ou tu le retires de Dallas, t'as une équipe qui joue la loterie ou qui va en finale NBA. Donc, par contre, sur l'attitude, oui, je te rejoins. Je pense qu'aussi, il y a énormément de fatigue. Il y a un mec qui est blessé. Mais sur l'attitude, je suis d'accord avec toi, il faut que ça bouge. Et moi, finalement, je suis pas si inquiet parce que j'ai l'impression que c'est un tel. Non, mais pour la suite, tu vois, je pense que c'est un tel compétiteur qui, à un moment, quand t'es un compétiteur comme ça, tu veux progresser. Et là, quand il aura le temps de regarder un petit peu dans le miroir, je pense qu'il va se rendre compte des moments où c'est vraiment où ça pénalise son équipe. Moi, j'ai trouvé bon en défensivement, je l'ai trouvé bon dans ses playoffs, mis à part la finale, malgré les stats. Je pense qu'en finale, il était trop fatigué, trop blessé. Alors après, on en parlait un petit peu dans le podcast avec Chahi et Antoine. Il y a un moment où Chahi et Antoine, quand tu fais partie des plus grands, si tu veux être dans les mecs dont on se souviendra pour des décennies et des décennies, c'était tous des gars qui ont réussi malgré tout à passer par-dessus ça, passer par-dessus la fatigue, tu vois, le flu game, toutes ces images qu'on berçait un petit peu, qu'on fait le mythe en fait de la NBA. Donc il y a un moment où malgré tout, si tu veux appartenir à cette classe de joueurs, il faut que tu arrives à dépasser ça, et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour le reste, voilà, je pense que c'est quand même une saison assez exceptionnelle pour Dallas. Hein. Même moi, si même en tout début d'année, moi je me disais, c'est peut-être une équipe qui pourrait finir dans le top 4 à l'Ouest. Ce que j'avais dit dans notre preview. Finalement, il y a eu des trades. Ils ont été même meilleurs que ce qu'on pouvait imaginer. Mais personne les imaginait aller en finale NBA quasiment. Donc voilà, il a 25 ans. Il a beaucoup d'expérience déjà. mais c'est encore un jeune joueur. Je suis d'accord avec Antoine quand il dit que en fait, c'est un jeune joueur un peu comme Tatum, où finalement ils sont déjà dans leur prime, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont déjà au très haut niveau, qu'ils sont déjà dans leur prime. Mais ces ajustements, je pense que Luka en est capable, et je pense que si c'est le compétiteur que je pense qu'il est, il saura les faire. Alors, je ne garantis pas que ça va être 82 matchs comment dire, de bisounours, mais qu'au moins dans les moments importants, il réalisera. Et on l'a vu par moment, en fait. Quand même, dans ces playoffs, par moment, j'ai senti les moments où il arrivait à passer un peu au-delà. Je sais plus, je me mélange un peu les séries. Je crois que c'est face aux Wolves, là, où clairement, il s'était fait pourrir un match, et le match d'après, il était plus, tu sais, que son espèce de sourire carnassier, où tu sens qu'il te traite de connard quand même. Il le fait avec un sourire au lieu de mettre les mots dans sa bouche. Et en fait, la défense, elle est énorme. Elle est énorme pour lui, son rendement. Elle est énorme sur la manière dont le flow du match, le relationnel avec les coéquipiers, c'est une différence qui est énorme. Et effectivement, faut qu'il fasse ce pas en avant. Je te rejoins complètement là-dessus, Pierre.
Mais c'est là où c'est tout le paradoxe. Et je pense que cette année, c'est vraiment, il y a eu voilà, cette appellation, le paradoxe Luka Doncic, parce que en effet, il peut le faire l'effort, tu vois. Et bon, là, moi, je pense que contre Boston, il est cuit. Il est clairement cuit. C'est difficile pour lui. Peut-être qu'il en parlera après. Il était blessé. Et puis, il a mis tellement. Enfin, faut voir ce qu'il a mis dans les trois séries d'avant. Mais il m'a fait kiffer comme jamais, moi. Toutes ces photos où il éteint Booker, il éteint les uns après les autres. Enfin, et puis en plus, il a ce côté grande gueule que moi j'adore. Mais c'est vrai que voilà, il y a, je pense, une petite remise en question. On parle encore une fois certainement du top 3 de la ligue. Hein. Donc moi, je suis admiratif, j'adore Luka. Mais c'est vrai que cette fin, je pense qu'il a agacé pas mal de gens. Et puis je pense aussi, très honnêtement, qu'il y a une frustration parce qu'on fasse trop fort, c'est tout. C'est trop fort, mais je peux comprendre qu'il soit frustré de ne pas arriver à passer Jalen Brown, qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur un Derrick White, qu'il soit peut-être un peu éteint par Jrue Holiday, pour un compétiteur comme ça qui a roulé sur l'Ouest comme il l'a fait. Bon, voilà. Mais encore une fois, je parle de Luka, non pas parce que c'est quand même pratiquement son année à lui, quoi. Celui qui est performant de A à Z. De A à Y et demi, on va dire. Et
C'est ça.
voilà, mais bon, enfin voilà. C'est un petit peu comme pour Victor, c'est toujours pareil avec Lucas, c'est vivement la suite, quoi. J'ai hâte de le voir revenir avec une vraie vengeance.
Non, t'as raison. Et pour finir sur son tempérament, quand même, le problème, c'est quand t'as été élevé par Sergio Llull, par Andrés Nocioni, par Rudy Fernandez dans cette équipe du Real, forcément, ça laisse des traces sur le long terme, quoi.
Ah oui, c'est marrant cet amour qu'il a pour le Real encore, quand tu vois, c'est vraiment
Ah
son
bah il a
sang.
grandi, hein, clairement,
Ah
quoi.
ouais. Tout son sang est blanc, comme ça, et merengue, c'est chouette à voir. À chaque fois que Madrid gagne une Ligue des Champions, ça joue à ce niveau-là, son respect de Florentino Pérez, qui est le président du Real, hein, qu'on voit beaucoup au foot. Hein. Non, je te le dis. Real de Madrid, c'est une équipe de. Ah, parce que l'autre jour, j'étais halluciné, j'ai failli faire Wow! Dans la rue parce que tu as dit Man City.
T'as vu ça? Tu vois le mec qui prépare ses fiches quand même. Qui vient pas les mains dans les poches.
Il est allé à Man City. Écoute, j'ai failli prendre le tramway. Tu sais, j'ai traversé, le tramway s'est pilé en disant Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit Mec, tu te rends pas compte!
On passe à nos coups de cœur de la semaine, Pierre?
Ouais, bah alors il y a plus de. Alors, si, il y a de la WNBA, on continue à regarder ça. Il y a l'Euro,
Ouais.
si vous regardez le foot, il y a les JO qui arrivent, mais il y a moins de basket à regarder. Donc, on n'a plus à se coucher tôt en se disant on va se lever dans la nuit. Donc, on a du temps pour soi, machin, pour bouquiner, pour lire. Donc, moi, je vous ai pris deux, trois petits trucs. Premièrement, ce livre. Alors, ce livre, c'est un livre de Richard Powers. Richard Powers, c'est
Ah, super.
un extraordinaire auteur qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle L'Arbre Monde, qui avait gagné un prix Pulitzer, je crois que c'était en 2019, et qui a écrit ce livre qui s'appelle Sidération sur les rapports d'un homme qui est astrobiologiste et son fils, suite à la perte de la maman et de l'épouse de cet homme-là, et qui se retrouve connecté à la nature, Je sais pas. Moi, je vais être très honnête avec vous. La dernière page, j'ai versé des larmes en finissant ce livre. C'est bouleversant, c'est écrit. Faut voir comment. Donc, je vous conseille de lire Sidération. On se pose plein de questions sur le sens de ce qu'on est. Faut s'accrocher parce que ça parle pas mal d'astrobiologie, du cosmos, etc. Donc, si vous aimez voyager, lisez Sidération, c'est superbe. Toi, tu dois connaître Théo, c'est une publication que j'adore, ça s'appelle Off To, ce magazine qui est fait par la journaliste Lise Gomis, qui part donc en Afrique à la rencontre des personnages un petit peu particuliers, que ce soit dans la cuisine, dans la musique, de femmes. Voilà, c'est à la fois en anglais d'un côté, en français de l'autre. C'est des superbes publications qui sont faites par des artistes. Toutes les photos, tous les dessins sont faits par des artistes qui sont locaux. Donc, c'est uniquement autour de la culture locale. Elle part à chaque fois pendant des semaines et des semaines pour s'imprégner. Ici, c'était sur lui, sur Kinshasa. Il y avait sur lui, sur Dar es Salaam, qui est là également, qui est magnifique. Et est sorti cette semaine, donc ce samedi, donc hier, celui sur Dakar. Donc, vous allez sur Off to Mag et vous avez un magazine absolument superbe. Vous voyez, avec ça, il parle de cuisinier, ça, il parle de cuisine, ça, il parle de culture, ça, il parle beaucoup de musique aussi, beaucoup autour des femmes. Donc, voilà, bravo à Lise Gomis que j'embrasse. Si vous voulez. Vous mettra en description aussi, on l'avait reçu sur Radio Grenouille dans Ringtam, où il nous expliquait tout le processus et la manière de travailler sur ces magazines. Et puis je te laisse voir là, à chaque fois la maquette est absolument superbe et ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait dans Reverse à ce niveau-là. Et puis si vous voulez écouter de la musique, c'est la période des festivals, donc je vous conseille d'aller voir Kryongbin, parce que moi j'adore Kryongbin, ce groupe instrumental là qui a sorti son dernier album qui s'appelle La Sala et qui sort des albums à chaque fois uniquement instrumentaux, un petit peu comme Glass Beams, il y a une guitare, une basse, une batterie. Kryongbin, donc on vous conseille d'écouter. Et moi j'ai découvert un truc j'ai entendu un single qui m'a beaucoup plu et j'ai acheté le dernier album de Billie Eilish, et c'est pratiquement pour moi l'album de l'année. Qui est absolument superbe. Je connaissais pas Billie Eilish. Pour moi, c'était une petite pop star limite Taylor Swift, etc. Je connaissais pas l'univers, donc je m'y suis plongé. C'est d'une complexité dans la simplicité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les productions, c'est produit par son frère, sont d'une justesse, la voix est d'une justesse absolument superbe. Ça mêle un peu pop électronique. Il y a des passages un peu plus soul, etc. C'est un superbe album. Et ça s'appelle, cet album, je vais te dire, Hit Me Hard and Soft, comme dirait Drew Holiday. Donc voilà, le disque est plutôt sympa, puisque c'est un disque marbré orange.
Ah oui. Toi,
tu aimes ces petits items un peu particuliers. Donc voilà, pour vous écouter Billie Eilish et Kryongbin, n'hésitez pas à y aller, les yeux fermés, c'est du tout bon. Et pour la lecture, Off To.
Super, je connaissais pas du tout Off To. Alors Richard Powers, j'avais lu, je me rappelle plus du titre, mais j'ai déjà lu des bouquins de lui qui m'avaient beaucoup plu, mais je connaissais pas celui-ci non plus. Donc je me note ça sur ma liste qui continue de s'agrandir de semaine en semaine. Avec
il existe en poche. Hein, là, je vous le montre okay. Comme ça, mais il existe en poche à 8 et quelques euros. Donc là, je vous présente la version Actes Sud, mais il existe en poche.
Eh ben écoute, moi, Pierre, je vais aller chercher moins loin. Mon coup de cœur de la semaine, alors c'est peut-être un petit peu honteux, mais c'est tout simplement quand même la réédition du MOOC 2 spécial défense. Alors oui, c'est de l'autopromo, mais honnêtement, on s'est quand même donné Gavé. Vraiment du mal pour ce numéro. Je vous montre un petit peu la brique que ça représente.
Merveilleux numéro.
304 pages dédiées à la défense. Voilà, donc si vous allez sur Basket Session, vous verrez, il y a différents packs. Il y a le pack classique avec le MOOC avec sa couverture d'origine rouge. Il y a un pack avec celui que je vous montre ici avec la surcover que je trouve incroyable de mon laiton préféré, Vladislav Lakché, artiste avec lequel on a déjà eu la chance de collaborer à plusieurs reprises, qui est agrémenté d'une jolie planche de stickers tirés des illustrations du MOOC, avec une petite carte aussi collector à collectionner pour les fans de cards. Voilà, vous savez qu'on vous propose ça désormais. Honnêtement, on a vraiment essayé de faire le tour de la question entre portrait, analyse, interview autour de la défense et puis coup de bol. En fait, ces playoffs NBA qui ont vraiment été sous l'angle de la défense, de match en match, de série en série. On ne parlait que de ça, quasiment des ajustements de part et d'autre. Donc voilà, et en couverture, comme vous pouvez le voir, on a voulu rendre hommage à Ben Wallace, sans doute le joueur NBA qui est autour. Voilà, pas, limite le gars, enfin sans la défense. Sans la défense, jamais ça aurait été un Hall of Famer et jamais même ça aurait été un basketteur, un NBAer, je pense, sans aucun doute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Encore une fois, vraiment, il y a de très belles illustrations. J'ai essayé de vous montrer ça, mais le mieux, c'est d'aller bien sûr sur Basket Session voir tout ça. Mais j'en profite pour remercier tous les graphistes et les photographes avec lesquels on a travaillé sur ce numéro. On a vraiment essayé de faire ça en... De faire les choses bien. Là, je vous montre j'aime beaucoup cette illustration de Brittney Griner, dont vous pourrez découvrir l'histoire, par exemple. Voilà, je vous en dis
juste
pas plus.
Juste une question pour nos bien auditeurs. Sûr. Est-ce que si on possède déjà le numéro le MOOC Rivers d'origine, le numéro 2, est-ce que celui-là devient un peu... c'est juste une version, on va dire, plus jolie, où c'est une vraie version augmentée et on y retrouve des choses et peut-être même les articles du MOOC numéro 2 qui datent d'il y a 4 ou 5 ans, je crois déjà, ont été pas upgradés, mais remis au goût du jour. Excellent. Je connais la réponse, mais
excellente question, Pierre. Non, mais très bien vu. Effectivement, alors déjà, si vous avez l'édition originale de ce MOOC, gardez-la précieusement parce que tous les articles qui n'étaient pas dédiés à la défense dans le MOOC d'origine ont été retirés de cette réédition. Donc, vous avez des articles qui n'ont pas été republiés, qui sont inédits d'une certaine manière. On a rajouté plus d'une centaine de pages de nouveaux articles. Et effectivement, tous les articles qui ont été conservés ont été repris, remaniés de manière à ce qu'ils soient aussi intemporels que possible, avec des corrections au vu de ce qui a pu se passer en NBA et dans le basket en général ces dernières années. Donc c'est vraiment une version rééditée, mais qu'on a reprise de fond en comble, quelque part. Certains sujets, même, on a complètement changé les illustrations, les photos. Il y a eu un travail de fond. J'en place une à Guillaume Laroche, qui s'occupe de toute la maquette de Rivers et qui fait un travail exceptionnel à chaque numéro. Voilà, c'était un gros travail, honnêtement. On était ravis aussi de le faire, parce qu'il faut savoir que c'est vous, lecteurs, dans une grande partie, qui nous demandiez la réédition de ce numéro qui était épuisé depuis un bon moment. Voilà, c'est une édition, encore une fois, en nombre très limité. Donc si ça vous intéresse, vraiment ne tardez pas trop. Je vous encourage à aller sur basketsession.com. Comme vous le savez, on n'est pas disponible ni en Fnac, ni sur Amazon, ni nulle part ailleurs que sur notre propre site et notre propre shop. Donc allez jeter un coup d'œil à tout ça. J'avais un autre livre aussi à vous présenter. Alors pour le coup, je vous le présente, mais je ne l'ai pas encore lu, mais je vous le présente malgré tout. Il s'appelle Three Ring Circus, l'héritage des Lakers. C'est un bouquin de Jeff Perlman qui est publié aux éditions Talent Sport. C'est comme toujours avec les éditions Talent Sport, c'est toujours des bouquins de qualité, très documentés. Là, je vous montre un petit peu les photos. Quand on parle de Three Rings, bien sûr, on parle du fameux three-peat des Lakers. La dernière fois qu'une équipe a réussi l'exploit de gagner 3 titres de suite, c'était cette grande équipe. L'héritage de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Voilà, encore une fois, je ne l'ai pas lu, j'hésiterai pas à revenir vers vous, vous refaire un petit compte-rendu une fois que j'aurai eu l'occasion de me plonger dedans. Mais ça, voilà, c'est un des livres qui va être sur le haut de ma pile pour les vacances, ou du moins pour les semaines à venir, pour me replonger dans toute cette époque mémorable et historique à bien des égards.
C'est sympa parce que souvent dans ces éditions françaises comme ça, on a toujours des titres qui sont très très français. Tu sais, ces mauvaises traductions. Jordan Rule, c'est la loi du plus fort. Donc là, on a Three Ring Circus. Au moins, on a un vrai titre qui parle à tout le monde. Il aurait pu s'appeler Shit Show, ce truc. Je pense que c'est un peu là où il voulait en venir. Ouais.
Clairement. Je te propose qu'on passe aux reliques de la semaine, Pierre.
Allez.
Vas-y. Alors, allez, vas-y, je me lance. C'est un anniversaire, alors voilà, pour les fans de hip-hop et de rap new-yorkais comme moi, ou enfin pas que new-yorkais d'ailleurs, mais ceux qui ont été marqués en tout cas par le hip-hop des années 90, il y a plein d'anniversaires depuis 2 ans, là, parce que 93, 94 et puis bientôt 95, c'était des années un peu mythiques. Et donc voilà, 30 ans de cet album fantastique que j'adore et dont on parle assez peu finalement, je trouve, quand on parle de la grande époque du rap new-yorkais. C'est le premier album des Beatnuts. Alors, vous voyez le petit autocollant Street Level qui est sur la photo, donc on l'appelle souvent Street Level, mais en fait l'album s'appelle Beatnuts, tout simplement The Bit Nuts. Simplement, c'était un hasard. Le sticker, c'était sur le mur quand la photo a été prise. J'adore cet album. C'est un disque à extrêmement bien vieilli. Je trouve au bout du compte que les Beatnuts, qui se passeront jamais pour les meilleurs lyricistes du monde, sont par contre l'un des meilleurs groupes de tous les temps et sous-coté à cet égard en termes de qualité de musique. Voilà, au même titre que ça ferait l'objet d'un autre podcast complet, Pierre, mais au même titre que M.O.P., c'est des groupes finalement dont qu'on considère pas comme faisant forcément partie de la crème de la crème. Pour moi, c'est toujours un immense plaisir de me replonger dans leur discographie. Donc voilà, je vous sors cet album The Beatnuts. The Beatnuts ou The Beatnuts Street Level en fonction de comment vous le trouvez, comment vous le trouvez sur internet ou sur la toile si vous le cherchez. Album fantastique, super bien produit, et Juju et Psycholess, les deux compères, moi je vous, ça c'est du bonheur en barre.
On fête les 40 ans aussi de ce qui a été considéré comme le premier album de rap français, c'est le Panam City Rapping de Dynasty, sorti en 1984 et qui est réédité pour la toute première fois en vinyle. Je crois qu'il n'y a pas énormément de copies, hein, il y en a 400 ou 500, pas plus. Mais voilà, donc vous pouvez vous procurer ce disque historique, c'est vraiment le cas de le dire, de Dynasty. Je me suis toujours posé la question, j'ai pas la réponse de pourquoi on a attendu 40 ans pour rééditer ce truc en vinyle, l'édition originale. Si vous allez voir, je vous conseille d'aller regarder l'excellente série sur Arte, Le Monde de Demain, parce que c'est à la fois l'histoire de NTM, mais c'est aussi et surtout l'histoire de Dynasty, et on voit la mise en place de ce disque, comment il est enregistré à la campagne, sur quel matériel, et bah, le fait qu'il se vende pas, qu'il a été filé à droite à gauche, enfin voilà, et on comprend pourquoi aujourd'hui les copies se vendent entre 7 et 800 euros sur Discogs. Donc voilà, vous avez la possibilité de mettre, certes une réédition, c'est pas un original, mais d'avoir enfin Panam City Rapping en vinyle. Donc profitez-en. Là, moi j'ai un pote ici, il en a acheté 4 copies, comme ça il était sûr de plus jamais ne pas l'avoir, en fait, si jamais.
Non mais tu fais tout à fait bien d'en parler. Dynasty, là aussi ça mériterait plus qu'une émission, une série complète. C'est probablement la personne la plus importante de l'histoire du hip-hop français dont personne ou trop peu de gens parlent. Je t'avoue que dans mes grands moments à moi de vie professionnelle, la fois où j'ai pu aller lui taper dans la main et faire une interview avec lui et lui dire à quel point ce qu'il avait pu faire, notamment à l'époque de Radio Nova avec ses émissions du Dynasty, il avait été important pour moi. C'était un grand moment d'émotion pour moi. Donc, si vous êtes parisien, je sais que ou du moins en région parisienne, je sais notamment que ce disque est disponible chez le disquaire Music Avenue, qui est dans le 11e. Très bon disquaire. Donc voilà, j'en profite pour vous donner cette petite info supplémentaire.
Et du coup, toi, t'en as une copie de Panam City Rapping?
Non, oui. Je t'avoue que non, celui-là manque encore à ma collection, mais bon, il est pas trop tard.
Non, justement. tu parlais des Parisiens. J'ai cru comprendre, mon cher Théo, que l'été n'était pas forcément arrivé partout en France.
Oui, c'est qu'elle je le confirme.
Dire. Donc, petite idée shopping en vous achetant un petit blouson aujourd'hui. Et cette fois-ci, on parle de Dynasty en 1984. Et ben moi, je te ramène à la même période, 1984-1985, avec un bomber satiné de chez Nike, tu vois. Alors, je te laisse apprécier la manière dont il se boutonne jusqu'en haut, tu vois. Très, très beau. Mais ce petit truc derrière, voilà.
Waouh.
Ouais, c'est la première collection textile Air Jordan, donc avec ce bomber qui était là et qui est estampillé. Donc, tu vois, l'étiquette, c'est bien Nike. C'est bien Nike, donc voilà, ils avaient promis une collection textile à l'époque, au moment où ils signent le fameux contrat qu'on voit dans le film Air avec Matt Damon et Ben Affleck. Et voilà, donc tu vois, satiné, pas starter, mais Nike, avec ce fameux logo Wings derrière, noir, brillant, pas facile à sortir, mais un privilège d'exister.
Attends, je vais te poser la question habituelle, mais ça, c'est le blouson d'origine, ça?
Ouais.
Mais comment... ouais,
ça c'est pas une réédition, ouais. Celui-là il est d'époque.
L'état est incroyable.
Ouais, il est en super état. Ouais, et je sais pas s'il y a une poche dedans, je suis pas sûr. Non, mais bon, c'est, tu vois, avec le damier intérieur comme dans tous ces blousons là, il est en excellent état, hein. Tu vois, le satin a pas bougé, hein.
Ah oui, c'est clair.
Voilà.
Bon. Et ben Another One Bites the Dust pour moi, parce que Pierre, il a encore mis une gifle énorme.
Enfin, c'est pas vrai, parce que c'est égalité, parce que moi, j'ai pas plus le beatnote que tu as peut-être ce blouson.
Bon. T'as plus de chances de mettre une main sur le beatnote que moi de mettre une main sur ce blouson. Ok, non, bravo à toi, Pierre, une fois de plus. Voilà, bah, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire aussi s'il y a des choses, vous, des choses évidentes qui vous ont marqué, dont vous vous souviendrez à jamais de cette saison 2023-2024. On sera ravis de lire ça, de vous répondre et de commenter à tout
le,
ça.
Le,
et
puis... le Hoop Culture fait partie des choses qui vont retenir comment... de cette année 2023-2024.
Il faut qu'on refasse l'émission. Allez, Pierre, bon, Pierre, j'arrête l'émission, on la réenregistre du début pour mettre le Hoop Culture tout en haut de cette liste, bien entendu. Mais effectivement, en tout cas, c'est toujours autant un plaisir de te retrouver, de vous retrouver, vous, chaque semaine. Profitez bien de cette trêve de NBA, mais ça ne s'arrête jamais, parce que maintenant, ça va être la draft. Après la draft, ça va être la free agency. Après la free agency, ça va être forcément les Jeux Olympiques. Après, ça sera la pré-saison. Et pendant tout ce temps-là, il y a la WNBA. Donc, on a encore plein de basket à voir et plein de choses à discuter tous ensemble. Profitez bien du week-end. On vous dit à très vite. Ciao.
Salut.